focaliser sur tout ce qui est qui fait rentrer directement au paradis. Comme par exemple, il y a des moments, on a vu dans les cours de précédents du jeûne, que la fin de chaque nuit de Ramadan ou la dernière nuit, Allah Ta'ala, il affranchit les gens de l'enfer. Tu ne dois pas passer à côté de ça. On ne doit pas passer à côté de ça. Les jours impairs également. Celui qui fait ses calculs, on parlait de calcul, c'est un commerce avec Allah. Imagine-toi que si tu as gagné Laylat al-Qadr, Allahu Akbar, s'il vous plaît, vous connaissez le calcul de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, comme traduction rapprochée, comment il l'appelle? Non mais là, ça y est! Non mais écoutez, ça y est! Bon, c'est une parabole que je vous donne. Je vais dire une expression, mais attention à ne pas prendre dans l'absolu, parce que dans la religion, on ne ferme pas la boutique. La boutique, elle se ferme quand tu meurs, jusqu'à tes derniers instants. Wafikum barakallah. Mais ça y est, si tu as Laylat al-Qadr, c'est une parabole, attention, hein. Tu fermes la boutique. Alors, fermer la boutique dans la religion, c'est quand tu meurs. C'est juste une. Là, le tijara, c'est comme quelqu'un, ça y est, il a gagné le milliard. Il ferme la boutique. Toi, tu as gagné 60 ans de prière. Tu ne vas pas t'arrêter. Mais c'est pour vous dire, c'est sur ce bouton-là qu'il faut se focaliser. Vous connaissez l'histoire de Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah. Un jour, c'était le 27e jour du Ramadan, Laylat al-Qadr, entre parenthèses, hein. C'est pas forcément le 27. Cheikh Abdelazak al-Badr, il sortait en famille et il y avait un groupe de jeunes dans son quartier ou en bas de chez lui. Où ils écoutaient de la musique, 27e jour du Ramadan, la nuit du Ramadan. Le cheikh, il leur a fait d'un siha. Il les a conseillés avec sagesse. Regardez, c'est un mois béni. C'est un jour où il y a inestimable. Le profit à gagner auprès d'Allah Ta'ala. Je ne sais plus combien de temps, parce que c'est un récit que j'ai entendu il y a quand même un moment. 82 années, subhanallah. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vrai, j'ai dit 60 ans, ça m'est sorti comme ça, mais je sais que ce n'est pas 60 ans, c'est vrai. Ça m'est sorti comme ça. J'étais plus concentré à ce que je disais et j'ai sorti le 60, mais en réalité, ils ont calculé, c'est bien plus que 60. Alors, de ce que je me souviens du récit, peut-être 7 ans ou 5 ans, je ne sais plus, quelques années après, il y a un frère, Talib al-Ilm, Multazim, Mustaqim, qui se présente à Cheikh Abdelazak al-Badr, qui lui dit, vous savez, Cheikh Abdelazak, je suis un des jeunes le jour de 27e jour du Ramadan, telle année, qui était en groupe avec ces jeunes-là et avec qui vous l'avez fait nasiha, vous l'avez conseillé. Je suis un de ces jeunes que vous avez conseillé et que votre conseil m'a touché. Ça aussi, mes très chers étudiants, c'est un bouton sur lequel vous pouvez appuyer. Si vous avez sauvé une personne, vous êtes la cause de la guidée d'une personne, c'est mieux que tout ce qu'il y a. Ça aussi, attention, c'est un gros, gros profit dans la société, dans mon entreprise. Et mon entreprise, c'est quoi? C'est remplir les hassanettes, pas les billets de banque. Alors, celui qui a compris c'est quoi le tijara avec Allah, il ne va rien négliger, hein, les petites hassanettes, il ne va pas les négliger. Mais des fois, il voudra faire des jackpots comme ça. Je ne connais pas je connais le sens général du terme jackpot, mais je ne connais pas le sens, tous les sens compris dans ce terme. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de choses qui ne sont pas légiférées dans ce terme, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Dans la religion, le tijara avec Allah cherche toujours le jackpot. Le maximum. Pourquoi je vais passer par des petits chemins, des petits chemins, des petits chemins, des petits chemins? Attention à ne pas négliger, peut-être qu'ils vont t'amener vers le grand chemin, à la fin du grand chemin. Mais si je peux passer directement par des grands chemins pour atterrir, alors pourquoi s'en priver? Allahu Ta'ala. Et parmi ces chemins, il y a le mois de Ramadan. Tayyib. Donc, ça va, ce chapitre, il n'y a pas beaucoup de choses à mentionner normalement. Ou alors, je confonds avec le chapitre. Oui, oui, ce chapitre, il a que 2 pages. Donc, alhamdulillah. Traduction du verset que Cheikh Al-Othaymin, rahimahullah, nous a mentionné. Sourate Al-Baqarah. Alors, on envoie les fawaïd hein, à vous également. Hein. Les fawaïd, à vous de savoir comment les péchés et comment les péchés et les garder auprès de vous et de les mettre en pratique, d'en tirer profit de ces fawaïd, parce que wallah, ce sont des fawaïd. Si elles ne sortent pas, elles ne passent pas dans l'oreille d'un sourd. Normalement, ça peut même changer la vie de quelqu'un. Et c'est fait exprès, hein, croyez-le bien. Hein. C'est fait exprès. Hein. Oh, les croyants, vous a prescrit à Siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Qur'an a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Le jeûne, c'est également, on proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers attestés que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed, alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, puis l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, l'aumône légale, le hajj, pèlerinage, à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. » Puis, Cheikh Al-Uthaymin nous dit Barakallahu fikum. Wa ajma'a al-muslimoun, pardon. Les musulmans se sont réunis, donc ils sont unanimes sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Donc, ceci est connu de manière incontestable et quiconque viendrait réfuter cela se verrait appliquer la sanction légale prévue à cet effet. C'est-à-dire que cette personne, une personne qui renie l'obligation, réfute l'obligation du jeûne, elle sera mécréante, elle devra se repentir. Si elle ne se repentit pas, si elle ne se repent pas, pardon, alors la sentence de l'apostasie de l'islam, lui, de l'apostat de l'islam, devra lui être appliquée. Et quiconque viendrait à réfuter cela se verrait appliquer la sanction légale prévue à cet effet. Après lui avoir demandé de se repentir, il serait exécuté en tant qu'apostat. Sans être lavé, sans être mis dans un linceul, on ne devra pas prier sur lui ou implorer la miséricorde en sa faveur. il ne devra pas être enterré dans un cimetière musulman. Donc ça, je vais vous donner une faïda ici. Ici, on parle de celui qui a renié le caractère obligatoire du jeûne. Forcément, il a renié un commandement d'Allah ou Ta'ala. Donc, il est apostat. Donc ça, c'est là le jugement mentionné par Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Alors, la faïda que je vous donne, c'est que Cheikh Al-Uthaymin, il a la même position concernant celui qui abandonne la salat. Il dit que c'est de la mécréance et que c'est un apostat et qu'il ne doit pas être lavé et pas être enterré avec les musulmans. Taïb. Il devra plutôt être enseveli dans un endroit isolé afin que les gens ne soient pas gênés par l'odeur de sa dépouille. Ça, c'est celui qui a été exécuté en reniant le caractère obligatoire du jeûne. Le jeûne, et que ses proches ne soient pas peinés par la vision de son cadavre. Le jeûne de Ramadan fut imposé la deuxième année de l'Hégire. Ainsi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, jeûna ce mois durant 9 années, son obligation se fit en 2 étapes. Alors, on va quand même vous poser une petite question, vous faire participer un petit peu. Il est dit ici, c'est facile, il est mentionné ici que le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré la deuxième année de l'année de l'Hégire. Donc, c'était à quel endroit? À Mekka ou à Médine? Arsenti, Médine. Très bonne réponse. Médine, très bien. Arsentoun, Médine, très bien. Très bonne réponse. Mashallah, Syed. Je pense que j'ai appuyé sur le bouton de l'Institut Tawhid. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça aussi, ça s'appelle tirer profit. C'est une manière de tirer profit, appuyer sur le bouton. Papa Doudou, très bien, à Médine. Barakallahu fikoum. Tayyib. Naham, jeûner ce mois durant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna ce mois durant 9 années, tout à fait. 9 années. Son obligation se fit en 2 étapes. L'obligation donc du jeûne, elle se fit en 2 étapes. La première, les musulmans avaient le choix de jeûner ou de nourrir un pauvre, bien que le jeûne fût préférable. Donc vous voyez, avant l'obligation du jeûne, les musulmans avaient le choix de jeûner ou de nourrir un pauvre. Ils avaient le choix. Tandis que la deuxième étape, c'est lorsque le jeûne, après l'obligation formelle du jeûne, a été légiféré. Là, il n'y avait plus le choix. Là, il n'y avait plus le choix. Alors, je vais donner une faïda. Ici, on va mentionner une faïda. Attention! Cette faïda, elle s'adresse à un style d'étudiant, c'est-à-dire une tranche d'étudiants, pas à tous les étudiants ici aujourd'hui, à ceux qui font du usul al-fiqh. C'est juste une faïda. Au passage, j'en profite. Regardez ici. On nous mentionne 2 étapes. La première étape, le musulman avait le choix. On est d'accord entre les deux. Deuxième étape, l'obligation formelle du jeûne. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a l'abrogé et l'abrogeant. Mais ça vous êtes censé, on a parlé, vous connaissez l'abrogé et l'abrogeant. Mais là, une faïda, ça c'est dans les cours qui viennent plus tard, dans Usul Fiqh. C'est que regardez, et il y a une divergence chez les savants. Masha'Allah. Il y a une divergence chez les savants dans Usul Fiqh, vous le verrez plus tard. Mais Nous, on va vous donner une position avec un dalil. C'est que regardez dans Usul Fiqh concernant l'abrogé et l'abrogeant. L'abrogeant, il est venu avec, en temps, avec un texte plus lourd, plus dur, on dit athqal, que le précédent. Parce qu'il y a des savants, ils disent, il n'y a pas d'abrogeant plus difficile, plus lourd. Parce que la religion, c'est la facilité. Mais en réalité, les savants, ils ont dit, bah si, regardez le dalil. Au début, les musulmans, ils avaient le choix de jeûner. Et après, il y a un abrogeant qui est venu, un texte qui abroge, qui est venu, mais sous une forme plus dure, plus lourde. Donc, il est permis d'abroger avec quelque chose de plus lourd. Donc, si vous avez compris la faïda, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. On le verra l'année prochaine ou autre. Et ceux qui n'ont pas du tout compris parce que ce n'est pas leur matière, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une priorité pour vous. Tayyib. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Salama ibn... alors, je vais lire en arabe parce que moi, les noms en français... donnez-moi une petite minute. Officiam Ramadan, Fisuna Thaniya, Al-Ula, Al-Khair, Ra'in, Na'am. Na'am, An Salama ibn Al-Aqwa, radiallahu anhu. An Salamati ibn Al-Aqwa. D'accord. Ah, bah, c'est, ouais, c'est ça, Aqwa. Rapporte que lorsque fut révélé ce verset, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre, celui qui voulait jeûner, qui voulait manger, pardon, et ne pas jeûner en donnant une compensation, pouvait le faire. Donc, pour vous dire qu'au début, hein, avant, ils avaient le choix, jusqu'à ce que soit révélé le verset suivant qui abrogea cette dérogation. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Allah donc imposa à chaque musulman et annula le choix précédent. Le jeûne ne devient obligatoire qu'après avoir vu le croissant lunaire. Il n'est donc pas permis de jeûner avant l'entrée du mois, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas précéder le ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, à l'exception d'un homme qui a l'habitude de jeûner ce jour, qu'il le fasse. L'entrée du jeûne de Ramadan ne peut se faire que par deux manières. Donc là, c'est bien, on entre un peu dans le Cheikh Al-Uthaymeen, il entre un peu dans le dans la jurisprudence du jeûne. Alors, il y avait, il m'a semblé précédemment, un commentaire. C'est un anglicisme. Et il est employé surtout dans l'expression « gagner le jackpot », donc l'équivalent français, et « gagner le gros lot ». Oui, c'est ça que je voulais dire en fait, « gagner le gros lot », subhanallah. Sabaq al-lisan. Barakallahu fikum. Très bonne faïda. En vérité, c'est ça que je voulais dire. Gagner le gros lot. Le gros lot, c'est... Tout le monde sait ce que c'est le gros lot chez nous. Il n'est pas nécessaire que chaque musulman le voit. Donc, pardon. L'entrée du mois de Ramadan ne peut se faire que de deux manières. Un, la vision du croissant lunaire, en vertu de la parole d'Allah Ta'ala, que celui qui aperçoit l'entrée du mois se mette à jeûner, et en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous l'apercevez le croissant lunaire, alors jeûnez. Il n'est pas nécessaire que chaque musulman le voit. À partir du moment où un musulman intègre, dont le témoignage est accepté, aperçoit le croissant lunaire. Son obligation s'étend à toute la communauté. S'il y a une personne, alors attention, hein, il y a de grosses divergences. Nous, on prend la position ici de Cheikh Al-Uthaymeen parce que sinon, on ne va pas s'en sortir à mentionner les divergences. Il y a des savants qui disent, comme Cheikh Al-Uthaymeen ici, il nous dit s'il y a un musulman dans n'importe quel pays qui l'a vu, tout le monde doit jeûner, tous les musulmans. Et il y en a qui disent non, s'il y a... un pays musulman qui l'a vu, si toi où tu vis l'ont vu, tu dois jeûner même si les autres ne l'ont pas vu. il y a des divergences. Les conditions nécessaires à la prise en compte du témoignage de quelqu'un qui affirme avoir vu le croissant lunaire sont les suivantes. Ça veut dire, pour qu'on prend le témoignage de celui qui nous dit « j'ai vu la lune, on peut jeûner », il y a des conditions. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, les voici. Il doit être pubère, doué de raison. Il doit être musulman et connu pour son honnêteté et sa bonne vision. Tamam ? Le témoignage d'un enfant ne peut donc pas être accepté au même titre que le fou. Il n'est donc pas non plus permis de prendre en compte le témoignage d'un mécréant en vertu de ce récit rapporté par Ibn Abbas. Un bédouin vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « J'ai aperçu le croissant lunaire du Ramadan. » Et il lui demanda « Attestes-tu que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah ?» Il répondit « Oui. » Il l'interrogea alors de nouveau « Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah ?» Il répondit « Oui. » Alors il dit « Oh Bilal, annonce aux gens qu'il doit jeûner. » Ça, c'est la preuve que celui qui témoigne doit être musulman. Comment on quantifie l'honnêteté d'une personne à notre époque pour le témoignage de la vision en France? Allahu a'lam. Allahu a'lam, papa, je ne sais pas. Quant à celui qui est connu pour le mensonge ou l'empressement, et celui dont la vue est faible, leur témoignage n'est pas pris en compte. L'entrée du mois de Ramadan est uniquement pour ce mois, peut être attestée par un seul homme, comme l'a rapporté Ibn Umar. Les gens se mirent à chercher l'apparition de la nouvelle lune. Je vins informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que je l'avais vu. Il ordonna alors aux musulmans de jeûner. Ainsi, quiconque le voit de façon formelle devra en informer les autorités compétentes. Il en est de même pour le croissant lunaire du mois de Shawwal et de Dhul-Hijja, car l'accomplissement du jeûne, sa rupture et les rites du Hajj y sont liés, car les moyens qui mènent à une action obligatoire le sont eux aussi. Une personne isolée qui voit le croissant lunaire, en étant incapable d'avertir les autorités compétentes, devra jeûner et faire son possible afin de prévenir les responsables religieux. Lorsque l'information de l'entrée du mois est annoncée par l'État, à travers la radio ou tout autre moyen de communication, les musulmans doivent s'y soumettre, que ce soit pour l'entrée ou la fin du Ramadan ou autre, car l'annonce officielle de l'État est un argument religieux qui est pris en compte et auquel il faut se plier. Donc là, comme on a dépassé l'heure du cours, on va continuer, on va terminer, mais j'aurais eu beaucoup de... Inch'Allah ou Ta'ala, peut-être que dans le prochain cours, au lieu de prendre la quatrième assise, on fera une explication de cette troisième assise. Parce qu'il y a beaucoup de questions ici à vous éclairer. Par exemple, se fier à l'organisation musulmane, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Les savants disent qu'on ne regarde pas le croissant lunaire comme le font aujourd'hui la mosquée de Paris ou autre, à regarder avec des calculs et des télescopes, etc. Il y a des savants qui disent que ce n'est pas la sunna. C'est pas la sunna. Wallahu a'lam. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir eu la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan, à Bilal de l'annoncer aux gens, il a demandé à Bilal de l'annoncer aux gens et ordonna de jeûner, et c'est cet ordre implique de s'y conformer. Une fois que l'entrée est confirmée de manière sûre, conformément à la législation, il n'y a nul besoin d'avoir recours aux estimations des positions lunaires. Vous voyez ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lia l'entrée du mois à la vision et non aux estimations. Vous voyez ? La mosquée de Paris ceci, la mosquée de Paris cela. Allahu a'lam. Il dit, lorsque vous le voyez, alors jeûnez. Et lorsque vous le voyez, alors rompez le jeûne. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si deux témoins musulmans attestent de sa vision, alors jeûnez et rompez le jeûne. L'entrée du mois de Ramadan peut se faire également lorsque le mois précédent touche à sa fin, au bout de 30 jours, car le mois lunaire ne peut pas dépasser cette durée, il ne peut pas durer plus de 30 jours et moins de 29 jours. il est possible que deux ou trois mois consécutifs aient une durée totale de 30 jours ou que deux, trois, voire quatre aient une durée minimale de 9 jours, mais en général, un ou deux sont complets et le suivant ne dure que 29 jours. Inch'Allah ou Ta'ala, on en a terminé ici. Dans le prochain cours, on va expliquer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est mieux, c'est que dans le prochain cours, on va expliquer la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, en détail. On va vous donner une petite explication concernant toutes les questions religieuses qui sont en rapport avec la parole du Cheikh ici. Wa barakallahu fiikum wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.